Voici venue l'heure du voyage biographique. Partir, grâce au documentaire, sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. La prison, ça ne sert à rien, sauf à coûter cher aux contribuables. C'est l'école du crime, dénoncer ce curé des mers. Aussi surnommé le pape des paumés, il emmènera plus de 15 000 jeunes délinquants ou toxicomanes au Cap-Vert, aux Antilles ou à La Réunion. Aujourd'hui, Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin vous proposent le portrait du père Michel Jaouen. 1920-2016, c'est toute une vie de sacré bonhomme avec un B majuscule.
Et l'origine Michel, enfin quand ils sont revenus de Ouessant, ils étaient à Kerlouan, ouais. Parce qu'il lui, il a passé pas mal d'années à l'île Ouessant, en fait. Ouais. Ouais. Voilà, donc Michel Jaouen, oui, c'est un vrai personnage qui m'a beaucoup marqué, forcément, tout petit. D'une part parce que il venait souvent à la scierie. Mon père tenait une scierie ici à quelques kilomètres de la Bervrac, au-dessus, là. On sciait du bois pour faire des bateaux, entre autres, pour les bateliers. Et Michel venait régulièrement chercher du bois quand il en avait besoin. Et je me souviens surtout une anecdote. Le Bel Espoir avait perdu un de ses mâts qui était cassé, qui avait dématé. Et comme Michel, il récupère tout, il avait décidé de faire des planches avec son mât pour effectivement que ça serve à quelque chose, faire des étagères, faire autre chose. Enfin bon, peu importe. Mais on perd rien chez les Jaouen. Donc du coup, on avait scié, et je me souviens très bien du moment du sciage, parce que mine de rien, c'était un mât où il y avait beaucoup de clous, il y avait beaucoup de choses qui avaient été enfoncées. Alors du coup, les lames de scie, elles prenaient cher, comme on dit. Mais bon, c'était pour Michel Jaouen, donc on pouvait pas refuser.
Père Michel Jaouen, démerdez-vous pour être heureux. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin.
Tous ces garçons demandent une chose, c'est qu'on leur fout de la paix. Oui, et surtout que quand on arrive quelque part dans un port, on ne soit pas étiqueté et drogué, parce qu'on leur demande à eux de se réinsérer, mais alors qu'on ne les empêche pas. Oui. Et je crois personnellement qu'avec des gens de bonne volonté, une cure de cette sorte ne peut être que salutaire. Oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, on est très souvent en mer. Oui. Et le fait d'être en mer, ben c'est la tranquillité, c'est la possibilité de discuter, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de creuser les affaires en dehors d'un monde très artificiel qu'est la société actuelle. Vous voyez.
Il était comment avec l'enfant que vous étiez, Jacques Carès ?
C'était un personnage impressionnant quand on est gamin, parce qu'il a d'abord une voix forte. Déjà sur le Bel Espoir, ici, quand on l'entendait faire ses manœuvres, c'était une voix tellement forte et tellement précise qu'il fallait pas broncher. Alors moi, j'étais pas à bord, mais je voyais souvent le Bel Espoir accosté ici sur le quai de la Bervrac, entre autres, ou des manœuvres d'ici d'entrée. Donc c'était l'époque où il y avait effectivement pas mal de gens en difficulté qui venaient ici, qui récupéraient. Et quand j'étais enfant, c'est vrai qu'au début, les gens étaient assez réticents, même ici. Ils trouvaient toujours, dès qu'il y avait un truc dans le patelin, ah, c'est sûrement les délinquants de Michel Jaouen. Alors, ce qui était forcément faux, mais c'était devenu un petit peu la routine de certaines réflexions des patelins à un moment donné. Puis ça s'est vite effacé. Enfin, ça s'est vite. Ça a pris du temps. Le temps a permis d'effacer tout ça, et au contraire. Après la JD, donc l'association des jeunes délinquants qui est devenue association du jeudi dimanche, c'est plutôt quelque chose qui fait aujourd'hui, en tout cas, encore symbole, parce que c'est un vrai intérêt pour les gens, pour les gens en difficulté. Et puis sa façon de faire à Michel, c'était surtout de mélanger les genres. Il cherchait pas à mettre les gens par catégorie de difficultés. Au contraire, il a toujours ouvert sa porte à tout le monde. Et c'était ça qui était intéressant, c'est ce mélange complet des générations aussi. Et puis surtout des gens qui vont bien dans la vie et ceux qui vont moins bien. Et justement de pouvoir que ceux qui vont bien accueillir ceux qui vont moins bien. Donc ça a été son faire-valoir pendant toute sa vie, je pense. Et sa générosité, parce que lui, je me souviens très bien, parfois, quand je revenais de mer... Comme j'étais navigateur sur des bateaux modernes, enfin des bateaux de course, j'avais souvent des vêtements de mer et des super cirés. Et puis je me dis, bon, ben, je vais le donner à Michel, il en a sûrement besoin. En fait, il le donnait tout de suite à quelqu'un d'autre. Donc c'était tout de suite une passation, c'était assez, assez sympa. Michel, il a besoin de rien, mais il donne tout ce qu'il a. Donc c'est vraiment le personnage emblématique du partage.
Là, on est dans le speed total. Moi, à l'origine, comme j'ai passé mon matelot pont l'année dernière, je voulais, c'est un certificat de matelot, et après, pour faire la formation de capitaine, il faut valider 6 mois de navigation. Et donc cette association, je la connaissais depuis 4 ans, j'en avais beaucoup entendu parler, et moi je naviguais aux Antilles, et même aux Antilles on croise des personnes qui ont connu le Père Jaouen ou qui sont passées par là de tout âge. Donc j'étais vraiment motivée et je voulais vraiment venir ici pour naviguer. Et entre temps, avec le confinement et le Covid, ça a changé, mes plans ont changé aussi. Donc au final, être au chantier, du coup j'ai un peu changé de projet, et être au chantier ça m'intéresse aussi énormément, quoi.
Yann Kefelec, vous êtes écrivain et navigateur. Pouvez-vous décrire l'Abervrac et expliquer ce que signifie Aber ?
Ça veut dire rivière. Il y a 3 Abers en Bretagne Nord. Il n'y a d'ailleurs que 3 Abers dans toute la Bretagne. Ailleurs, vous avez des rias éventuellement, c'est-à-dire des rivières qui donnent sur la mer, mais qui donnent sur la mer de façon moins naturelle qu'en Bretagne Nord. Là où vous trouvez ces 3 abers, l'Aber Ildut, l'Aber Benoît, l'Aber Vrac. Donc un aber, c'est une rivière, c'est un plan d'eau fluvio-maritime, humecté par une rivière à l'est et par l'océan, plusieurs fois par jour, au rythme de la marée à l'ouest. C'est de toute beauté parce que c'est toujours très calme, donc les éléments peuvent se déchaîner au-delà des dunes, au-delà comme ça des derniers rivages. Quand vous êtes dans l'aber, vous êtes au calme et vous êtes en sécurité. L'Aber, c'est avant tout un lieu sûr, là où les lieux ne sont pas sûrs du tout.
Vous avez bien connu, Yann Kefelec, le Père Jaouen ?
Bien connu, ce n'est pas le mot. Tous les marins là-bas ont connu le Père Jaouen parce que le Bel Espoir et ces beaux bateaux comme ça de rédemption circulait dans les abers. Donc je l'ai connu, j'ai partagé des soirées avec lui, je l'ai écouté. On sait d'ailleurs, je pense, apprécier, mais il faut dire qu'il appréciait tout le monde parce qu'il avait toujours tendance à rattraper chez l'individu cette petite part d'étincelle qu'il savait détecter chez lui. Et il était d'un contact infiniment agréable. C'est un homme qui avait abdiqué toutes les pauses. Ça n'existait pas chez lui, il allait droit à l'essentiel. Il voulait qu'on soit vrai les uns avec les autres. Il pensait qu'on n'était jamais si vrai que lorsque l'on avait le pont d'un bateau sous les pieds. Il est tout de même l'auteur de cette devise que j'ai faite mienne et que beaucoup d'autres ont faite leur, parce qu'elle est célébrissime. Démerdez-vous pour être heureux.
Qui je suis ? Il faudrait plutôt demander ça aux autres, vous savez, parce qu'on se définit mal soi-même, on se fait toujours des illusions. Je suis breton, c'est déjà quelque chose, vous voyez. Je suis breton, je suis jésuite, je suis sur mer actuellement. J'ai été longtemps sans aller en mer, bien que né à Ouessant, effectivement, la mer pour moi c'est une réalité, c'est un fait tout simple. Je suis en mer naturellement, je vous dirais, sans plus, et sans chercher d'arrière-pensée, de vocation particulière ou de trucs extraordinaires, oui.
Et puis, bah, vous pouvez peut-être dire que vous vous êtes voué à une tâche quand même assez exceptionnelle.
Hein. Oh, je vous dirais que oui, mais enfin, les histoires de voué qui entraînent tout de suite la vocation et trucs comme ça, moi, je n'y crois pas tellement. Vous voyez, c'est plutôt les circonstances de la vie qui font qu'on se trouve dans des occasions où on réagit de telle et telle façon. J'ai été pendant 13 ans à Fresnes, vous voyez, bah, ça ne m'était pas venu à l'idée au départ d'aller à Fresnes. Je suis arrivé à Fresnes comme ça, de fil en aiguille, je dirais. Mais d'ailleurs, tous ceux qui viennent à Fresnes, ils viennent de fil en aiguille. Mais j'étais destiné au départ, même quand je suis rentré chez les Jésuites, je venais pour la Chine, je venais pas pour la France, même je comptais partir en Chine, et puis il y a eu la guerre, et puis Après la guerre, il n'y a pas eu de bateau pour la Chine. Et puis finalement, je suis resté en rade en France. Et puis de là, de fil en aiguille, j'en suis venu à m'occuper à ce moment-là de la libération, des histoires de libération, de gosses qui traînaient, de jeunes délinquants, par le fait même. De jeunes délinquants, je suis allé les voir à Fresnes parce que j'avais beaucoup de relations parmi eux. Et puis que je me suis fait piéger à Fresnes et je suis resté à Fresnes pendant 13 ans. Qu'en sortant de Fresnes, je me suis rendu compte que Fresnes, bah, c'était bien gentil, mais que le problème de Fresnes, c'était un problème secondaire, que le problème le plus important, c'était encore quand il sortait, pour qu'il ne retourne pas ou qu'il retourne moins. Là, j'ai construit un foyer de jeunes pour les sortants de prison. Quand je me suis rendu compte qu'effectivement, ce foyer pouvait très bien tourner sans moi, et même non seulement tourner sans moi, mais que c'était lui rendre service que de lui donner sa liberté, son indépendance et de devenir adulte, eh ben, je me suis embarqué dans des histoires de bateaux parce qu'occasionnellement, j'ai trouvé ce bateau qui s'appelait le Bel Espoir.
J'en profite pour charrier.
Il y en a aussi là, il y en a un partout. Moi, je dis souvent que je suis chargé de leur offrir un outil qui marche bien. Donc l'outil, ça peut être, c'est l'atelier, c'est les bateaux, et du coup, c'est faire que tout ça, ça marche bien, qu'il n'y ait pas, j'en sais rien moi, de risque d'accident, de... C'est un peu ça mon boulot, quoi. Ouais. Voilà.
Vous vous appelez comment ?
Ziton.
Et vous travaillez pour l'association, avec l'association, depuis combien d'années ?
Pouah, j'en sais rien. Un bon bout de temps. Poser des questions, vous, ça fait 30 ans, quoi, ou 40 ans, je sais pas.
Et vous êtes le neveu du père Jaouen,
ouais.
Qui avait beaucoup de sœurs et frères.
Ouais, ouais, ils étaient 13, ouais. Il a plus qu'une, enfin, il est plus là non plus, quoi. Il n'y a plus qu'une de ses sœurs qui vit encore, qui est ma mère. Moi, je suis le seul à travailler en permanence, quoi. Il y en a d'autres qui donnent des coups de main bénévolement, quoi. Et par contre, il y a un petit neveu, du coup, qui maintenant travaille tout le temps. D'accord. Aussi. On va essayer de trouver un endroit pour s'asseoir.
Pour s'asseoir,
ouais. Là, on est en fait sur le JR, le sentier de grande randonnée, là, qui en fait passe par notre chantier, quoi, parce qu'on a autorisé les gens à passer sur notre chantier plutôt que de les faire contourner. Non, par contre, c'est vrai que l'endroit, il est fabuleux pour nous. Des endroits comme ça, il n'y en a pas... On a voulu, quand on a monté le chantier, on a circulé vraiment partout là, pour trouver un endroit où installer le chantier. Quand on a trouvé cet endroit-là, on s'est dit, c'est ça qu'il nous faut. Ça fait 20 ans qu'on est là, en fait. Ouais. On a ce chantier-là. Oula, Jean-Baptiste, t'as le temps. J'aurais pu ramener Jean-Michel pour l'amener au car.
Ah ouais, bien sûr.
Lui, par exemple, il était avec le père Jaouen en... C'était en quelle année que t'étais, toi ?
La première année, 72.
72.
Et vous faisiez quoi ?
J'étais médecin à bord. Avec la première virée de ce qu'on appelait à ce moment-là les intox.
D'accord.
Et donc, moi, j'avais fini mes études. J'avais pas de sujet de thèse. Comme j'étais tout le temps à naviguer avec Michel Jaouen, il m'a dit, j'ai pas de médecin, est-ce que tu es d'accord de venir avec nous pour faire la première traversée, mais il nous faut un médecin. Et ben, je dis, ouais, comme j'ai pas de sujet de thèse, ben, c'est impeccable. Et voilà.
Et après, ça, c'est... toutes les années, vous êtes revenu ?
Ah non, après, je m'étais installé comme médecin généraliste.
Mais
ça a été déjà une expérience, celle qui a été, qui a tracé les sillons.
Ouais.
Et puis c'est celle qui a laissé le plus de traces, je crois,
ouais.
Dans les mémoires.
Vous voyez, ben lui, on le revoit régulièrement, il vient nous voir,
ouais,
nous dire bonjour.
Oui.
Donc je connais Michel Jaouen depuis mes 8-9 ans. Et donc, ben, j'ai toujours été un de ses premiers délinquants. Quoi.
Mais donc on voit que c'est un bateau confortable, quoi. Quand ils l'ont récupéré, il y avait très peu de cabines, des baignoires. Donc là, il a été réaménagé pour pouvoir embarquer 38 personnes, des cabines cloisonnées, etc. C'est beaucoup moins luxueux, mais ça reste un bateau très confortable, très agréable, très très beau. Donc le Bel Espoir qu'on peut voir ici d'origine, il est quand même vraiment moins confortable que le Roi Ravis.
Il était aumônier à Fresnes. Donc en juillet et août, il venait régulièrement avec des enfants dont les parents étaient en prison. Et pour les sortir du milieu parisien, donc des trottoirs de Paris où il n'avait rien à faire, il les amenait ici, donc aux baraques que vous avez peut-être vues, et puis il les amenait faire du bateau. Et c'était, on les appelait des délinquants. Et moi, en tant que natif de l'Andeda, j'étais le premier délinquant de l'Andeda à fréquenter les délinquants. Parce que les gens n'osaient pas le fréquenter. C'était la terreur, c'était des terreurs. Quand ils arrivaient, ils avaient le chic d'arriver le dimanche matin avec son car. Juste à la sortie de la messe, ça voulait dire « Attention, fermez vos volets, gardez vos filles, les délinquants sont arrivés. » C'était ça la réputation qu'il avait. Il n'y avait pas de bateau ici. Personne n'avait de bateau. Le seul qui avait des bateaux, c'était Michel Jaouen. Et évidemment, on a commencé à faire avec des gars de l'Andeda, justement. On a emmené 5-6 délinquants sur un bateau qui s'appelait le Faucon, à ce moment-là, qui était un sabot. Mais on allait jusqu'à Ouessant, on allait jusqu'à Douarnenez, on allait jusqu'à Roscoff. Ils prenaient l'eau, ça ne fait rien. Et puis le Faucon, et puis après le Bel Espoir, hein, qui était un bateau très rapide, là, qui était une pilotine de Saint-Malo. Hein. Et puis un beau jour, en 68, quand tout était fini, moi j'étais en dernière année de médecine à Rennes, on nous a dit, bon, c'est plus la peine, rentre à la maison. J'arrive à la Berouac, Bel Espoir, 2 dans le port. Ah, le bonheur.
Vous allez rater votre terrain.
En fait, les deux maisons avec le terrain appartiennent à l'assaut, et la maison du haut sert pour l'hébergement de certains stagiaires.
D'accord.
Parfois, comme ils arrivent de loin, de la France entière et tout, ouais. Ils n'ont pas forcément de point de chute, donc on les héberge à l'arrivée. Voilà. On les dépanne.
Vous êtes arrivée quand dans l'association, Aurélie ?
Alors moi, j'ai commencé à être à l'association en 2001. J'ai travaillé là de 2001 à 2012. Et puis en 2012, j'ai décidé de partir un peu pour faire autre chose. Et je suis revenue en septembre 2018. Mais je connais l'assaut depuis que je suis petite, depuis que j'ai l'âge de 10 ans en fait. Je ne suis pas originaire d'ici, je suis de Normandie. Mais les bateaux venaient en escale donc dans la ville où j'habitais, à Côte-Bec-en-Caux, sur les bords de Seine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir Michel et les bateaux. Et très vite, j'ai dit que c'était ce que je voulais faire quand je serais grande. Et voilà. En fait, la première fois qu'il a fait escale, il allait participer à un rassemblement à Rouen. Et donc, il a fait escale comme ça à Côte-Bec. Et là, quand Michel venait avec les bateaux, ils étaient ouverts à tout le monde. Quoi. On était à quai, mais... Et moi, j'étais gamine et je pouvais monter sur ce bateau, ce trois-mâts. Il y a eu le Rara Avis et l'ancien Rara Avis et après le Bel Espoir. Et après, il faisait des petits séjours à la journée ou demi-journée avec des enfants des écoles sur la Seine. Et moi, j'étais un peu plus grande, mais du coup, j'ai mis mon petit sac à bord et je suis commencée à partir comme ça, en fait. Donc pour moi, c'était le voyage, alors que c'était des tout petits trajets, mais j'ai l'impression de faire déjà de la haute mer, quoi.
Vous connaissiez quelque chose au métier de la mer avant de venir ici ?
Chacun a son histoire, donc y en a qui connaissaient, qui étaient vraiment matelots, d'autres qui sont plus menuisiers et qui du coup viennent ici plus pour le chantier. On a un peu différents profils. Moi, je connaissais un peu la mer, mais pas tant que ça. Et je suis venue ici pour pouvoir apprendre vraiment à travailler le bois, et enfin à travailler sur un chantier naval, donc apprendre toutes les techniques artisanales.
Et moi, j'avais fait une transatlantique il y a 2 ans sur ce bateau, sur un Ravis. Et ça m'avait donné envie d'y passer plus de temps, mais non. À la base, je travaillais dans l'événementiel sportif, donc c'est assez loin de ce milieu.
Et qu'est-ce que vous saviez du père Jaouen avant de venir ici ?
Moi, je savais que c'était un prêtre et qu'il avait pris un bateau pour faire naviguer des gens. Quoi. Et sinon, je sais pas. Je connaissais pas trop tout.
On va s'asseoir quelque part par là. Hein. Oui. En fait, nous, on est un organisme de formation Donc on a le droit d'accueillir des stagiaires qui sont rémunérés par l'État quand ils viennent. Et l'intitulé de notre stage, c'est « Initiation au métier de la mer ». Donc c'est leur montrer un peu tout ce qui peut toucher au bateau. Donc ça va être la menuiserie, la mécanique, l'électricité, la navigation, la voilerie, tout ce qui peut se rapporter à un bateau. Et l'idée étant de les faire découvrir un peu tous ces trucs-là pour qu'ils choisissent éventuellement, qu'ils se sentent intéressés par un domaine quelconque et qu'après ils aillent continuer dans ce domaine-là à se former un peu plus, de manière un peu plus pointue, quoi. Puisque nous, c'est jamais qu'un survol quand même.
Ils peuvent ne rien connaître lorsqu'ils arrivent.
La plupart du temps, ils connaissent rien. Ouais. Après, il y en a certains, par exemple, qui sont des ébénistes, des menuisiers, mais qui n'ont jamais, jamais touché un bateau. Il y a vraiment toutes sortes de publics. Il y en a qui sortent de fac, il y a vraiment de tout.
Je vous disais tout à l'heure que je m'étais intéressé aux jeunes délinquants, je m'intéresse aux jeunes drogués, je m'intéresse à tous les gens, à n'importe qui, moi je m'intéresse à tout le monde. Et quand je fais des sorties en mer avec des comités d'entreprise, avec des élèves des grandes écoles, moi je les trouve tous intéressants. Tout le monde est intéressant. Et chacun à sa façon. Mais quand on sort un comité d'entreprise, par exemple, on se rend compte qu'il y a également beaucoup de problèmes dans ce comité d'entreprise. Au bout de 8 jours, on se rend compte que tous les gens qui sont là à bord, avec qui on a sympathisé, il y a presque autant de problèmes qu'avec des drogués, quand on les voit de près. Des problèmes différents, mais leurs problèmes aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de communier avec tout le monde, en fin de compte.
Il n'y a pas d'âge limite.
Il faut que ce soit majeur, ça c'est de toute façon, hein, nous on ne peut pas accueillir de mineurs. Et puis après on essaie de se limiter à 25. Bon, quelquefois on déborde un peu. On offre le repas du midi, sauf en ce moment, parce qu'avec cette histoire de Covid là, on a annulé ça, parce qu'autrement on mangeait tous ensemble. Parce qu'on a aussi des stages de cuisine en fait. Cuisine, puisque ça fait partie du boulot qu'on peut trouver sur un bateau. Après, on a des logements à l'endroit où on va manger, justement, on a des logements, mais qui permettent de loger une dizaine de personnes. Ils ont un coin où se mettre. Et après, en général, ils trouvent des colocs avec les autres stagiaires qui sont là, quoi. Ils s'arrangent et puis...
Et le soir, journée avec eux s'arrête.
Voilà, ouais. Le soir, ils se débrouillent. Mmh. Donc nous, on leur offre déjà un bon repas le midi, bien équilibré, tout ça. Donc à la limite, même si le soir, ils bouffent que des saloperies, c'est pas grave, ils auront eu un repas équilibré. Mais en plus, comme on a des accords là avec des supermarchés pour des récupérations de bouffe qu'eux, ils balancent autrement, on leur fournit tout ce qu'ils veulent pour se faire à manger correctement, quoi.
Les déjeuners du midi, essentiellement, puisqu'ils étaient souvent dans l'Anse de l'Enfer, à l'atelier, là-bas où il y a beaucoup de services de travail, ça peut être de la menuiserie, de soudeur, mécanicien, gréeur, il y a voilerie, donc il y a tous ces corps de métier qui tournent autour du bateau. Et le midi, ils reviennent à chaque fois en fourgon, ils reviennent déjeuner, ou Marianne qui a tenu ça pendant très longtemps. Et la notion d'être à table, c'est ça que favorisait Michel. Et Michel, son premier mot toujours, mange, il faut que tu manges. Ça déliait forcément les regards, les liens et les conversations s'engageaient très vite. Et ces repas-là étaient faits justement pour que les échanges... Puis il n'y avait pas d'ordre pour se mettre à table. Hein. Tout le monde se mélangeait, tout le monde se levait pour desservir. Et puis à l'époque où il y avait forcément... pas mal aussi de gens qui étaient toxicomanes et qui, ben, ils les fouillaient pas, hein, ils cherchaient pas à les fouiller, ils savaient très bien qu'une fois en mer, ben, il va falloir faire avec ce qu'il y a, et ce qui fait que souvent ils tombaient malades, dans le golfe de Gascogne principalement, qui est toujours un passage assez houleux ou assez compliqué à cette période-là de l'hiver pour partir. Et en fait, au bout du voyage, la personne, pas dans tous les cas malheureusement, dans beaucoup de cas, la personne a un autre regard de la vie et s'est repris en main, parce que c'est ce qu'il dit toujours, c'est pas parce que tes parents t'ont amené là qu'on va réussir, c'est toi, c'est que toi qui, si tu veux t'en sortir, il y a que toi qui prends la décision. Donc il favorisait vraiment la responsabilité de chacun.
Tout ça se passait de la même façon il y a une dizaine d'années, lorsque votre oncle était encore vivant.
Ouais, c'était exactement pareil. Tout pareil.
1976.
Et il y a quelques temps, j'étais dans un des grands ministères actuels, aux prises avec un directeur d'un service ou une directrice d'un service important, à qui je disais justement qu'à mon avis, la mer peut apporter dans la civilisation actuelle beaucoup de choses, pour différentes raisons, un peu à tout le monde, oui. Non seulement aux jeunes drogués, mais également à tous les autres gens qui souffrent du monde actuel, oui. Que ce soit des accidentés du travail, ou des petites dactylos, ou des filles des comptes chèques postaux qui font de la dépression nerveuse, et à qui 15 jours aux Antilles, plongeant, nageant, se baignant, ferait le plus grand bien et elle reviendrait en pleine forme. Et je lui disais, voulez-vous, si vous prenez les papiers et les crayons, vous verriez que ça vous coûte moins cher qu'un séjour dans une maison de repos en France, dans un vieux château perdu dans la campagne, où tout le monde s'embête et où on se demande en fin de compte ce qu'on fait là. Mais sa réaction a été, vous allez quand même pas les emmener aux Antilles baigner pendant un mois, et moi je vais rester ici, dans mon bureau. Ah, je dis, c'est pas possible. Au niveau d'un haut fonctionnaire, du plus haut rang, la réaction, c'était une réaction de jalousie. Je suis persuadé que, vous voyez, beaucoup de raisonnements, d'opposition ou autre chose, on irait par exemple dans les mers nordiques, dans Groenland, avec nos ouailles, il y aurait toute une partie de l'opposition qui tomberait. Ah, ça c'est viril, ça c'est, ça, ça fait des hommes, ça d'aller dans le froid. Tandis que vous allez dans le chaud, vous baignez. C'est...
Oui, vous les emmenez au paradis.
Voilà, vous les emmenez au paradis, puis moi j'y vais pas.
Quels sont les bruits qui courent sur le père Jaouen? Vous dites que même aux Antilles, on parle de lui.
Ah bah, c'est que en positif, c'est très impressionnant. C'est même au début, j'étais, mais c'est suspect. Personne n'a pas aimé, tout le monde a aimé son arrivée, son stage ici, son parcours, enfin... Tout le monde y a trouvé son compte, en fait. C'est vrai que c'est toi qui te crées tes objectifs et t'as pas, il n'y a aucun stress de passer un diplôme à la fin. Donc, je pense que chacun arrive ici avec son histoire et avec ses attentes. Et donc, je pense que chacun arrive facilement à y trouver son compte, quoi. Après, bon, voilà, moi, ça fait que 3 jours que j'y suis, mais je pense que je vais trouver, même si je ne sais pas encore ce que je vais en faire après, c'est vrai que c'est une super belle expérience, quoi. Donc, je rejoins ce que tout le monde dit au final. C'est une belle expérience.
Qu'est-ce que vous faites ici, Aurélie?
Alors, vous avez pu voir la partie chantier. Et nous, sur la partie bureau, on est deux. Donc, il y a Manon et moi-même. Et en fait, on fait tout ce qui est accueil téléphonique des jeunes qui veulent prendre des infos, que ce soit pour naviguer ou pour venir sur le chantier. Mais aussi le planning pour les séjours des bateaux, les réservations, les contacts avec les fournisseurs, la compta, enfin tout ce qui est administratif, financier, la communication pour la partie site internet aussi. Et on est aidé par des bénévoles, donc on a une de nos bénévoles par exemple qui vient pour la compta, et puis d'autres pour la cuisine et la logistique. Et la gestion psychologique, comme tu dis, des stagiaires. Très clairement, dans le fonctionnement, on fonctionne sans médecin, sans éducateur, sans psychologue. On n'a pas cet encadrement individuel. Nous, ce qu'on veut, c'est les plonger dans la réalité du travail que l'on effectue. Maintenant, certains viennent avec un passif plus ou moins chargé. Et évidemment, ils ont besoin d'une écoute aussi. Comme dirait Michel, ça peut être d'une écoute, mais aussi de coups de pied aux fesses. C'est l'un et l'autre. Et donc nous, on a aussi quelque part ce rôle-là de proposer un cadre, mais aussi surtout des qualités d'écoute pour arriver à ce que parfois ils vident leur sac ou ils disent ce qu'ils ont à dire et puis que derrière, on avance avec eux.
Mais ça prend un temps fou, hein. Moi, je m'en occupe pas. C'est pas du tout mon boulot, je suis pas là pour ça. Mais je passe des journées ici. Des fois, mais ça n'arrête pas. C'est toute la journée qu'il faut s'occuper de l'un qui arrive avec ses peines, ses machins, ses difficultés, ses impossibilités. Et moi, je suis là, je suis dans ma compta, donc je dis rien. Mais je me dis que je ne supporterais pas de faire toute une journée comme ça. Je pourrais pas. Moi, je suis pas faite pour ça. Mais ça prend un temps fou. C'est une part énorme du boulot de Manon et Aurélie. Moi, je ne suis pas faite pour être psychologue. Heureusement qu'il y en a qui sont faits pour. Moi, je ne suis pas faite pour ça, c'est tout. Je connais mes limites. Mais Michel, il faisait ça très bien aussi. Bah, c'était une grosse partie de son taf aussi. Hein. Mais moi, c'est pas mon truc. J'ai pas la patience.
Si, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il m'a parlé avec énormément d'affection de Florence Artaud, qui allait au contact du père Jaouen, je pense aussi, pour se laver l'âme. Hein. Je pense qu'elle ne disait pas ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on allait prendre, on allait auprès de lui un peu pour se blanchir la conscience, dont on ne savait pas trop quoi d'ailleurs. Bon, on avait un peu trop fait la bringue, on avait fait les fous ici et là, on était d'éducation chrétienne, donc très prompte à la culpabilité. on allait s'exonérer d'une certaine impression d'être en faute auprès du père Jaouen, qui d'ailleurs, sans avoir à pardonner, c'était pas un homme qui disait « va en paix mon fils » ou « ma fille », c'était quelqu'un, on se sentait bien auprès de lui, on se sentait libre d'être comme on était, à condition bien entendu de l'être la conscience tranquille.
Pourquoi Yann Kefelec, beaucoup de marins connaissaient le père Jaouen ?
D'abord parce qu'il adorait les marins. Ensuite, pour les raisons que je vous dis, c'est que... Et en plus, il adorait faire la bringue. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il avait un côté, non pas voyou, mais il était absolument pas, mais c'était un fêtard. C'était un homme qui était très admiratif des jeunes, de ce qu'ils entreprenaient sur la mer, des risques qu'ils prenaient. Très souvent, les marins sont des gens... qui sont un peu en bisbille avec leur milieu, c'est-à-dire que pour devenir les marins qu'ils sont, voilà, ils ont dit non à leur famille, ils ont dit non à leurs amours, ils ont pu faire des conneries, et le père Jaouen était là pour lisser les choses, mais sans aucun dogmatisme, jamais. C'est aussi cela qui le rendait crédible aux yeux des marins. Et autre chose le rendait crédible aux yeux des marins, c'est qu'il était marin lui-même. On ne se disait pas, tiens, c'est le père Jaouen, on l'appelait pas père Jaouen, on savait qu'il y avait une espèce de cordon ombilical entre lui et la divinité, donc ça rendait service à tout le monde, mais ça ne revenait pas sans cesse sur le tapis, il n'y avait pas du discours religieux à la clé, il n'y avait pas sans arrêt des écritures qui débarquaient comme ça pour nous remettre d'équerre face à une religion, absolument pas. Mais tout de même, il y avait une aura de spiritualité autour du père Jaouen qui était extrêmement agréable pour les marins, qui ne plaisantent pas avec la spiritualité, parce que les marins sont un peu superstitieux, et lorsqu'ils prennent la mer, ils ont besoin, justement, je parlais de conscience tranquille, ils ont un peu besoin d'avoir la conscience tranquille vis-à-vis de leur bateau, vis-à-vis des gens qu'ils laissent à terre, vis-à-vis de la mer et vis-à-vis d'eux-mêmes.
Le père Jaouen, auprès des navigateurs connus du grand public, c'est fait naître un sourire et une affection.
Ouais. Auprès des vieux, je dirais. Parce que les jeunes, maintenant, ils connaissent plus, quoi. Les navigants de maintenant, là, ben, on n'a plus affaire à eux. Et c'est vrai, par contre, que dans les années, alors je ne sais pas dans quelles années c'était les années où il y avait Tabarly et tous les gens comme ça, on se retrouvait très souvent parce que. Pourquoi ? Parce que chaque course, par exemple, nous, avec les trois mâts, on faisait souvent les départs de course. On allait donc dans les ports où il y avait ces bateaux de course qui étaient là. Et les coureurs vivaient sur leur bateau. Maintenant, vous allez à un départ de course sur le bateau, il y aura personne. Le coureur, il est à l'hôtel ou je sais pas où. On n'a pas de contact avec lui. Tandis que nous, c'est vrai que les premières courses qu'il y avait, les premières courses du Figaro, tous ces trucs-là, tous les coureurs vivaient sur leur bateau. En gros, ils se faisaient chier pour faire à bouffer parce que ça les emmerdait. Et du coup, ils venaient chez nous sur le Bel Espoir où ils savaient qu'il y avait toujours une assiette qui était prête. Et c'est comme ça qu'on les a connus. Et du coup, ils ont connu le père Jaouen comme ça. Et il y a eu un côté sympathique qui est né. Tabarly fonctionnait comme nous, d'ailleurs. Tabarly fonctionnait avec des jeunes qui faisaient leur service militaire. Et nous, pareil, on avait des jeunes qui faisaient leur service. Et tout ça, c'était finalement un peu la même bande, quoi.
Vous avez connu Florence Artaud ?
Ah ouais, très bien, ouais. Mais Florence, on l'a connue, c'est des gens qu'on a connus comme ça, quoi, justement.
Thierry Lyonnais, vous êtes journaliste à RCF, Radio Chrétienne Francophone. Vous avez reçu dans votre émission, peu de temps avant sa mort, le père Jaouen. Pourquoi il vous a particulièrement marqué ?
C'était un homme libre. Et le père Jaouen m'a profondément marqué par cette liberté intérieure. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été frappés par son franc-parler, son côté, certains disent, un peu grande gueule. En fait, c'est qu'il était libre, il se préoccupait pas du regard des autres, mais il respectait tous les gens. Il faisait aucune différence entre les riches, les nobles, les pauvres, les jeunes des banlieues avec qui il était, les gars qui sortaient de prison. Il avait cette attitude humaine qui était la même avec chacun. Pour moi, cet homme-là était profondément pétri par les valeurs de l'évangile. Il portait pas de croix, il avait pas de col romain, rien, il y avait aucun signe distinctif, mais il aimait son prochain. Et il aimait surtout les cabossés de la vie. Il avait une compassion, une empathie. Il n'y avait rien de mielleux, hein, parce qu'il n'était pas tendre avec eux. Il était tendre avec personne, ni avec lui, ni avec les jeunes. Mais il avait une véritable empathie. Il ne jugeait pas. Il accueillait les gars comme ils étaient. Et avec des jeunes sortis de prison, il savait les écouter, les accompagner pour qu'ils discernent ce qui allait les rendre vraiment libres et notamment sortir de la drogue, sortir de la délinquance. Donc il avait un côté vraiment jésuite. Et puis en même temps, il était issu de ce courant de Vatican II. Ce courant qui voulait sortir des sacristies, sortir des carcans de messes trop pompeuses et trop lourdes. Être dans le monde, il y avait tout ce courant des prêtres ouvriers, donc des gens insérés dans la vie. Et lui, il était complètement là-dedans. Donc, il faut toujours tenir les deux quand on rencontre Jawen, le jésuite et l'homme de Vatican II.
Est-ce qu'il était bon navigateur ?
Je ne sais pas ce qu'on appelle un bon navigateur. Non, moi je dirais non. Il avait une expérience colossale, quoi, parce que c'est vrai qu'il a navigué beaucoup. Mais il a commencé à naviguer, je dirais, sur le tard déjà, parce qu'il a eu le bel espoir. Attendez, il a eu le bel espoir en 68. En 68, il avait déjà, lui, que je dise pas de bêtises, 48 ans. Et c'est là qu'il a commencé à naviguer. Il a d'ailleurs pris, au début en 68, il a pris des équipages pour faire tourner son bateau, parce qu'il y connaissait rien. Et du coup, bah, il a acquis de l'expérience, mais pas comme un jeune qui l'a acquis à 20 ans. Non, c'était... Après, c'est sûr qu'il avait une expérience que vous passez... Après, il a passé, je sais pas, 30 ans ou 40 ans sur ses bateaux. Donc, il y a une expérience qui fait qu'on devient quand même marin. Puis bon, c'était pas son objectif, je veux dire. Lui, son objectif, c'était... Bah, lui, ce qui l'intéressait, c'était de s'occuper des gens. C'était pas de se passionner pour, je sais pas moi, des histoires de météo ou des trucs comme ça. Il connaissait parce que, ben, forcément, il y était baigné là-dedans, mais il aurait pas cherché à approfondir cette chose-là par intérêt personnel. Ce qui l'intéressait, lui, c'était les gens.
Père Jawen, cette opération Bel Espoir, c'est la deuxième année que vous la faites. En quoi elle consiste exactement ?
C'est pas exactement la deuxième année. Nous tournons depuis 68 et nous avons des croisières en permanence depuis le mois de mai 68. Le bateau n'arrête pas. C'est un bateau qui tourne du 1er janvier au 31 décembre et qui ne s'arrête que pour les travaux comme aujourd'hui, vous voyez, les travaux d'arsenaux ou d'entretien généraux. Là, actuellement, nous repartons effectivement pour la deuxième fois aux Antilles, mais c'est pas la première fois que nous occupons des garçons qui, ou des filles qui ont des problèmes et qui ont acquis une croisière ferait du bien, vous voyez. Et là, ça consiste tout simplement à traiter, si vous voulez, sur un plan de post-cure, de façon un peu peut-être originale. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Sans ça, si c'était pas original, vous ne seriez pas là. Les problèmes de ces garçons qui, ayant trempé dans la drogue ou autre chose, cherchent à s'en sortir et ça peut être une solution.
Le problème exact, je crois, votre but, c'est la réinsertion, ce qu'on appelle la réinsertion dans la vie sociale.
C'est-à-dire que oui, mais enfin, il y a des étapes préliminaires avant la réinsertion. Vous savez, il faut d'abord qu'ils se réintègrent dans leur propre peau. Et le jour où ils seront bien dans leur peau, eh bien, ils se réinséreront dans la vie sociale également. Et évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je crois personnellement qu'une bonne virée de plusieurs mois dans des conditions sympathiques, vous voyez, de vie de communauté, où ils retrouveront confiance en eux et dans les autres, c'est ça l'essentiel à mon avis, c'est de retrouver confiance en eux et dans les autres.
Est-ce que vous pouvez faire un portrait alors, de la famille dont vous êtes issu ?
Portrait...
Pourquoi elle a produit le père Jawen cette famille ?
Parce que déjà, je pense que dans les familles d'ici, il fallait produire des curés, hein. Déjà, le père Jawen, il n'a pas dû connaître beaucoup sa mère, parce que sa mère, elle est décédée très tôt, je crois. Donc, il a connu son père, que moi j'ai connu aussi, qui était mon grand-père, donc, qui était médecin, là, pas loin d'ici, là, sur Kerlouan. C'était le médecin de l'époque, quoi, c'est-à-dire le médecin, le vétérinaire, tous les gars du pays, là, qui ont plus de, je sais pas, 60 ans. C'est lui qui les a fait naître, quoi. Mais bon, est-ce que c'est ça qui fait que ça a fait un père Jawen ? J'en sais rien, moi. Je crois qu'il y avait une bonne partie de sa famille qui était assez fière, déjà, de l'avoir comme frère. par contre, je pense que sur le plan religieux, c'était peut-être lui qui était le moins curé dans l'histoire. C'est-à-dire que lui, bon, il était jésuite, ce qui est quand même assez spécial, je pense. Et puis, il avait des idées... il n'était pas arriéré sur les idées religieuses. Et dans sa famille, je dirais que c'est pas désintégré. Il y en a une bonne partie, c'est pas désintégriste, mais c'en est pas loin. Et lui, il l'était pas du tout.
Sur quel point il était progressiste?
Bon, progressiste, c'est un bien grand mot, mais ouais, si, quand même, il était beaucoup plus ouvert.
Progressiste, c'est un bien grand mot parce qu'il restait croyant, ou il restait religieux.
Ouais, je pense quand même, ouais.
Françoise, vous aviez quelle relation avec votre oncle?
Bah écoutez, il était comment? Moi, je le connais depuis que je suis toute petite. Hein. Alors moi, je passais pas mon temps sur les bateaux quand j'étais petite. Hein. D'abord, ma mère, elle voulait pas. Mais j'ai quand même fini par le faire. Et il m'a fallu des années, en fait, avant de réaliser que cet univers-là, qui les bateaux, cet univers qui nous proposait où on pouvait rencontrer n'importe qui, des gens très très différents, avec parfois des compétences hallucinantes, enfin qu'on peut croiser là sur la dune, parce qu'il venait discuter avec lui. Pour moi, c'était la norme. Enfin, c'était normal, je me posais pas vraiment de questions. Et c'est à force d'entendre cette réflexion de gens embarqués, même sur des petits séjours, cette réflexion que j'ai entendue plein de fois quand même, de se dire, mais en fait, on savait pas qu'on pouvait vivre comme ça, c'est trop bien. Moi, c'était l'inverse. Moi, je savais pas qu'il y en avait qui vivaient différemment. Bon, je suis peut-être naïve et sotte, hein, c'est même très possible. Mais bon, voilà, moi, je mesure la chance que j'ai eue de grandir dans cet environnement-là. Mais il m'a fallu longtemps pour en comprendre la valeur.
Encore une fois, ça fait que 3 jours que je suis là, mais c'est incroyable la bienveillance et la gentillesse de tout le monde.
Ah oui,
quoi.
Par rapport à tout,
parce que comme ils savent que chacun vient d'endroits différents, personne ne sait tes compétences et tout. Donc quand tu dis « je sais pas », ils disent « je vais t'apprendre ». Ou quand tu dis « je suis pas sûr », ils disent « c'est pas grave ». Ou « ah non, là, je le sens pas », ils disent « ok, pas de soucis enfin, ». C'est vraiment un bel esprit, quoi. Donc j'imagine qu'en mer, c'est pareil. À bord de ce bateau, en plus, c'est un gros bateau. Puis tout se hisse à la main, alors que moi, j'ai tous les bateaux sur lesquels j'ai été, c'était avec des winches, donc avec des espèces de grosses clés, quoi. Donc ça t'aide. Alors que là, c'est la force des bras. Tout à l'heure, moi, j'arrivais pas du tout toute seule, donc bien sûr, ils viennent m'aider. Non, c'est un bel esprit, quoi. Mais non, moi, ce que j'apprenais plus, c'était... Ici, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de filles, mais ce que j'apprenais plus au début, c'était d'être que entourée d'hommes et que du coup, il y ait vraiment un esprit très macho, renforcé par le côté des Antilles. Bon, moi, j'ai mon père qui est martiniquais, donc je connaissais déjà un peu l'esprit de là-bas. Et même ça, je ne l'ai pas ressenti quand je travaillais avec eux, avec des capitaines qui, pour l'essentiel, là-bas, sont tous masculins. Donc, c'est la seule chose que j'appréhendais un peu, enfin, que je n'ai pas ressenti.
Oui, si vous devenez capitaine, vous serez une exception. Il y a quelques femmes...
En Martinique, il y a une seule femme capitaine. Après, en revanche, en Bretagne, comme c'est quand même vraiment dans la culture, il y en a plein. Enfin, ouais, ça va. On est représentés.
1972.
Père, est-ce que vous êtes arrivé l'an dernier? Puisque cette année, nous sommes en plein départ. Je ne peux pas savoir quand ça va se passer. Parce que l'an dernier, vous êtes arrivé d'avoir des problèmes à bord.
Heureusement qu'il y en a des problèmes. Parce que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de travail, vous voyez. C'est en résolvant les problèmes qu'on arrive à progresser et à aller de l'avant. Mais enfin, ce sont des problèmes qui ne sont jamais insurmontables et qui, avec un peu de bonne volonté, arrivent à être dépassés. D'ailleurs, toute éducation est faite de problèmes à résoudre. Vous voyez.
Nous, on était 38. Et alors, nous, on est partis un 23 janvier. Et la traversée du golfe de Gascogne, les 2 premiers jours, il y a bien 30 personnes qui ont vomi. Et le fait de tous vomir par-dessus la lisse, ça soude vite, quoi. On est tous mis sur un même pied d'égalité. Et après, justement, on est tout le temps ensemble, à faire la vaisselle, à jouer, à naviguer. Et donc, des liens forts se tissent très, très vite avec des personnes de tout âge. Et moi, je sais que je continue à naviguer avec des retraités avec qui j'ai fait la transat, à avoir en permanence des plus jeunes. Enfin, c'est des beaux liens intergénérationnels. On vient tous d'endroits différents. Ça ouvre beaucoup l'esprit.
Ce n'est pas la place d'un enfant
1965.
Dans une prison, surtout dans une grosse prison telle que Fresnes. La simple étiquette de Fresnes écrase le gosse. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ces gosses nous arrivent pour des raisons, au début, presque insignifiantes. La plupart du temps, ce sont des vols de voitures, des vols de mobilettes, des délits qui, en réalité, relèvent beaucoup plus de la discipline que de la justice. La plupart de ces gosses ont besoin d'une sanction. D'ailleurs, ils en ont besoin pour leur équilibre. Mais entre le besoin d'une sanction et l'intervention de la justice, il y a un fossé. La justice est venue sur ce terrain qui n'est pas le sien, à mon avis, tout au moins, par bonne volonté, d'ailleurs. Elle est venue parce que le terrain était abandonné, que personne ne s'en occupait. Tous ces gosses ont posé un problème et posent tous les jours un problème parce que le nombre augmente non pas parce que les gosses sont plus difficiles mais parce qu'il y a plus d'enfants et les tribunaux d'enfants sont débordés, nous encombrent les prisons avec des cas qui ne sont pas à leur place. En réalité, je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à résoudre ce problème si on ne le reprend pas à la base.
Et la religion est absente ? Enfin, oui.
Oui, la religion est absente. Elle est vraiment absente. Enfin, ou alors, bien que Michel Jaouen ait été un prêtre qui était jésuite, ça reste une association c'est plus un esprit anarchiste qui règne, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut situer Michel Jaouen sur l'échiquier politique ?
Ah.
Oh bah moi, je m'y risquerais pas.
Moi non plus.
Ah bon ?
Non. Ah non, je m'y risquerais pas.
Je pense que Michel, il avait un avis sur les hommes politiques et sur ce qu'ils faisaient. Mais de là à le placer sur l'échiquier de manière catégorique, non.
Non.
Je pense que lui, c'est plus... la force qu'il avait, c'était sa capacité à voir les sujets d'actualité autrement. Et qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe. Sauf qu'il avait une façon de présenter les choses où finalement, ça a éveillé un sens critique aussi. Il y avait une culture générale aussi très très forte, hein, une capacité à mettre des sujets en lien avec les autres, les uns avec les autres. Après, il avait quand même un sens critique sur tout ce qui était décision prise, notamment par rapport aux prisons. Ça, c'était un sujet sur lequel il revenait constamment. Donc, le placer sur l'échiquier, non, c'est pas possible.
Non, c'était un électron libre, hein, un vrai. Dans le bon sens du mot, il avait ses convictions. Et ses convictions, il ne se préoccupait pas de savoir si elles étaient droites ou de gauche, il s'en foutait. C'était pas la question.
Quand il n'y a pas de pandémie, vous partez jusqu'où ?
Eh bien, normalement, là, le Raravis, il aurait dû être aux Antilles encore. On part en décembre ou janvier, on part sur les Antilles. Donc ça prend 6 semaines pour arriver là-bas. Arrivé là-bas, on tourne 2-3 mois sur place là-bas. Et puis on attaque le retour pour être ici à peu près au mois de juin. Et puis au mois de juin jusqu'en octobre, on tourne sur l'Europe. Donc on monte quelquefois sur l'Écosse ou la mer Baltique. Et puis on tourne sur les côtes de France, quoi.
Mais sur un bateau, vous êtes et vous étiez, quand Michel Jaouen était vivant, les deux seuls navigateurs sachant naviguer ?
Non, parce qu'il y avait aussi à l'époque des jeunes qui faisaient leur service militaire, qui étaient des officiers de marine marchande, qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque, on appelait ça leur quatrième année à bord. En fait, dans leur cursus scolaire, ils avaient du temps à valider sur des bateaux et ils venaient le valider chez nous. Et ces jeunes-là, c'était des jeunes, hein, ils avaient 23, 24 ans, et ils finissaient par prendre le commandement du bateau. Maintenant, c'est ça qui est assez curieux, c'est qu'on a toujours des gens qui sont issus du même cursus, mais qui n'ont plus l'aptitude à prendre le commandement, qui ne voudraient pas d'ailleurs, parce qu'ils se la sentent pas, ils pensent qu'ils sont un peu trop jeunes pour ça, alors qu'ils ont le même âge que ces gars-là d'il y a 30 ans. Mais bon, ils veulent plus. Et puis, par contre, ils prennent le commandement, mais beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'ils font leur stage chez nous. Après, ils vont bosser dans la marine marchande. Et puis, 4-5 ans après, ils ont acquis une expérience un peu plus costaud par leur métier. Et là, ils sont d'accord pour revenir pendant leurs vacances, leurs congés, pour venir prendre le commandement des bateaux. Et donc, on en a toute une flopée comme ça. Ils doivent être, je sais pas, presque une dizaine. Et dans les formateurs, on est 3. À pouvoir prendre le commandement du bateau s'il n'y a pas un bénévole qui est d'accord pour le faire.
Est-ce que l'association aujourd'hui, elle travaille autant à la réinsertion qu'il y a une vingtaine d'années?
Ouais, peut-être plus même.
Dans le coin, tout le monde connaît les Jaouen.
Ah oui, tout le monde connaît les Jaouen. C'est un personnage, il est éternel ici. On voit bien d'ailleurs, parce qu'on voit bien les... Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre des jeunes en stop. Je savais très bien qu'ils allaient chez Michel Jaouen. Donc, ça fait partie de la vie de la commune et ça dépasse la vie de la commune. Hein. C'est plutôt dans la région des Abers. Le Bel Espoir, le Raravis sont des bateaux emblématiques et qu'on aime bien voir, qui manœuvrent bien d'ailleurs. Il y a forcément des gens pour former et je trouve qu'à chaque fois, c'est ce que disait Michel, mes bateaux en tout cas ils naviguent parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui restent à terre ou au ponton ou à quai et lui il navigue. Alors ils sont pas toujours beaux, ils sont pas toujours repeints, ils sont pas toujours brillants, mais en tout cas ça navigue et l'essentiel d'un bateau c'est d'aller sur l'eau.
L'anse de l'enfer, Jacques Arès, c'est un nom, c'est un surnom donné par Michel Jaouen au chantier ou c'est vraiment le nom?
C'est vraiment le nom. C'est ça qui est incroyable, comment peut-on imaginer que Michel Jaouen, le père Jaouen, soit situé à l'anse de l'enfer? Alors c'est peut-être un clin d'œil parce que c'est pas du tout l'enfer. Au contraire, c'est une anse où il se passe beaucoup de choses et beaucoup de positivité. C'est vrai qu'entre les formateurs qui sont autour des deux bateaux, entre autres, des deux principaux bateaux qui sont le Raravis et maintenant le nouveau Bel Espoir, je trouve que, comme il disait, il faudrait qu'il y en ait 20, 30 bateaux comme ça en France. C'est vrai que lui, il a toujours essayé d'avoir des nouveaux bateaux et trouver une façon de mettre des bateaux en... Parce que c'est vrai que la mer, c'est le meilleur endroit, en fait, pour rassembler les gens. Parce qu'on peut pas partir, on peut pas esquiver. Et le fait de ne pas esquiver, c'est de trouver une façon de vivre ensemble. Et souvent, en plus, on est sur des belles découvertes, parce que la mer, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre, donc il n'y a pas de lassitude. Et les gens qui sont embarqués sont obligés d'être finalement complètement ébahis par ce qui se passe. Alors au début, c'est dur, parce qu'il faut avoir un peu le pied marin, mais très rapidement, au bout de quelques escales, le pied marin arrive, et puis on en profite au maximum.
Alors vous partez quand là et quel est votre itinéraire prévu et quand revenez-vous?
Nous comptons partir incessamment, vous voyez, ça dépend beaucoup des travaux qui sont en cours, qui sont en train de se terminer. Normalement à la fin de la semaine, là, nous allons faire les essais de réglage de compas en rade et faire quelques manœuvres en rade de façon à prendre le bateau en main, si vous voulez, les gosses prendront le bateau en main. Et on appareillera normalement en fin de semaine pour les Canaries, Madère d'abord, les Canaries ensuite. Et on ira chercher le vent comme font tous les grands voiliers. C'est-à-dire on va aller chercher le vent du côté du Cap Vert pour traverser en direction du Venezuela, de Trinidad, et on remontera ensuite par les Grenadines sur Fort-de-France. Et après Fort-de-France, on amorcera le retour, si vous voulez, en terminant dans les îles françaises, à Saint-Barthélemy, et les Bermudes, les Açores, et des Açores, on reviendra par Gibraltar sur Marseille, vraisemblablement autour du 1er juillet. 24 heures après, le temps de faire les vives, et nous repartons avec un groupe d'étudiants et d'étudiantes, alors là, du GNEXO qui partiront pour 3 semaines en recherche expérimentale, c'est-à-dire qu'en fait nous rejoindrons Brest, de Marseille-Brest, avec des étudiants et des étudiantes du GNEXO.
Alors si vous permettez, je vous donne rendez-vous à Marseille pour votre tour, pour faire avec vous le bilan de votre opération 1972.
Vous direz que ce ne sera pas le moment de faire le bilan, vous savez, le bilan c'est à faire dans 10 ans. Oui. Le bilan de cette rue-là, ça ne se fait pas le soir en arrivant. Oui. C'est 10 ans après, d'ailleurs dans 50 ans, eux, quand ils seront vieux, ils en parleront encore. Par conséquent, le bilan ne sera pas terminé. Oui.
Comment se sont passées les obsèques de Michel Jaouen?
Alors, la cérémonie d'enterrement a eu lieu à Paris. Donc, il y a eu une messe à ce moment-là. Il est inhumé à Paris. Tout à l'heure, on avait un de nos contacts là, qui nous montrait une photo de la tombe où il est enterré et où il y a toujours la petite brénique sur le petit coquillage qu'on avait mis sur la pierre tombale. Donc, il est toujours là depuis 5 ans maintenant déjà. C'était 2016. Et puis, on a fait une cérémonie ici aussi, bien sûr, quelques jours plus tard. Et le jour de ses obsèques, c'était une très grande marée ici, puisque c'était mi-mars. Donc, c'était les marées d'équinoxe, comme on vient d'avoir là maintenant. Et toute la flotte était sur l'eau, pendant la cérémonie à Paris. Voilà, je me rappelle de cette église qui était archibondée. Voilà. Et où on n'a pas entendu Michel parler, c'était ça le plus surprenant.
C'est quand même quelqu'un où quand il était, moi quand j'arrivais dans le bureau le matin où il était là, il a vécu avec son temps, plus de 90 ans, je le trouvais devant l'ordinateur en train de lire le journal du jour, parce que Maria n'était pas encore arrivée avec la presse qu'elle lui amenait quasiment tous les matins. Et donc du coup, il était déjà en train de lire le journal sur Internet et relever sa boîte mail. Il avait son téléphone portable qui sonnait en permanence. C'était quelqu'un qui vivait vraiment avec son temps et qui trouvait ça absolument magique, tous ces outils pour communiquer. Et il était fan de ça, c'était un fan du téléphone. Et voilà, c'est quelqu'un qui brassait tout le temps, il ne pouvait pas s'arrêter, c'est pas possible. Il fallait jamais s'arrêter. Et je pense que c'est ça aussi une des forces de Michel, c'était d'arriver à nous transmettre l'idée de ne pas avoir peur. Et d'avancer.
Vous savez dans quel cimetière il est enterré ?
Hein ?
Cimetière de Passy.
Passy, ouais. C'est Passy. Ouais.
Et d'ailleurs, il y avait une personne, après son inhumation, qui avait dit il est à la bonne place, il est entre le musée de la marine et le musée de l'homme.
Exact.
Tout est dit. Il est au bon endroit.
C'était Père Michel Jaouen, Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Avec Jacques Carès, navigateur. Yann Kefelec, écrivain et navigateur. Ziton, directeur de l'association AJD. Aurélie et Françoise, de l'association AJD. Thierry Lyonnais, journaliste. Et les stagiaires du chantier de l'AJD. Merci à Valérie Taillefer, des éditions Calman-Lévy, et à Arthur Levaillant, navigateur. Archivina, La croisière du bel espoir, 1972. Rencontre avec, 1976. Recherche de notre temps, 1965. Recherchina, Sandra Escamez. Prise de son, Yann Frécy. Coordination, Christine Bernard. Mixage, Claude Niort.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. La page du site est préparée et enrichie par Sylvia Favre et Anne-Lise Signoret de la bibliothèque de Radio France. À 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.